Bonjour à tous, c'est Clément et Louis sur la LBB Radio pour une nouvelle émission. Nous vous accompagnerons durant cette heure, tout en continuant notre émission sur le thème de la jeunesse. Aujourd'hui, nous parlerons de plusieurs sujets sous forme de chroniques, choisis par les élèves de seconde de la Borde Basse. Premièrement, nous aborderons le sujet de la délinquance chez les jeunes avec Célia et Timothée. Puis, dans un second temps, on parlera des Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris avec Mathieu et Damien.
Ensuite, les dangers dans le sport avec Noélie et Joanne. Nous poursuivrons avec le cas des inégalités sociales dans la scolarité avec l'aide de Cassandre et Amélie. Pour finir, des chroniques littéraires ont été écrites par les élèves avec l'aide de Madame Privat. Et nous les lirons à l'antenne. Commençons sans plus attendre avec la chronique de Célia et Timothée sur le sujet de la délinquance chez les jeunes.
Bonjour Clément et Louis.
Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la délinquance chez les jeunes entre 15 et 24 ans.
D'abord, nous allons vous présenter le sujet en définissant quelques termes de la délinquance. On vous expliquera aussi pourquoi avoir choisi ce sujet. Ensuite, nous évoquerons la première partie en parlant de l'état des lieux de la délinquance. Puis, en deuxième partie, on parlera des solutions qu'on peut trouver sur ce thème si complexe et si important. Comment définiriez-vous la délinquance ?
La délinquance est l'ensemble des délits considérés sur le plan social, comme par exemple les infractions sexuelles, les infractions routières, les dégradations publiques, la drogue et la violence. Il faut savoir qu'une infraction est une violation de la loi et qu'elle est punie de peines correctionnelles, comme par exemple des travaux d'intérêt général, le placement en foyer, la prison avec sursis ou autre.
Mais pourquoi vous avez choisi ce sujet ?
On a décidé de choisir ce sujet parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez vaste, qu'on voulait définir et on voulait en parler parce que nous ne sommes pas assez au courant de tout ce qui se passe autour de ça. Surtout qu'à notre âge, nous sommes les principaux concernés. On peut très vite être impliqué dans des violences, dans des trafics de drogue ou d'autres délinquances. La question de la délinquance juvénile revient régulièrement dans les débats.
Dans la délinquance, différentes infractions existent. Nous nous sommes alors penchés sur l'enquête de l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques.
La délinquance concerne qui alors ?
La délinquance concerne tous les âges, mais chez les jeunes, c'est surtout ceux de 15 à 24 ans qui sont concernés. À chaque étape de l'adolescence correspond une spécialité d'infraction avec des pics clairement identifiés à certains âges.
Une spécialité, c'est-à-dire ?
Par exemple, l'enquête de l'INSEE s'est penchée sur les jeunes de 14 ans, chez qui les atteintes sexuelles sont nombreuses. Cette catégorie d'infractions regroupe les agressions sexuelles, les viols et les atteintes au comportement. En 2014, elle impliquait 12 000 jeunes délinquants présumés. Ce phénomène de délinquance sexuelle chez les plus jeunes dure depuis le début des années 2000. Juliette Rabot, dans son article Enquête de l'INSEE, rappelle que la part des moins de 18 ans dont les auteurs d'infractions sexuelles mises en cause auraient ainsi augmenté de 70% entre 1996 et 2003, selon l'Observatoire national de la délinquance.
Il y a aussi les jeunes de 16 ans qui sont les auteurs principaux de trois groupes d'infractions. Les destructions et dégradations impliquent 42 000 jeunes sur l'année 2014, les vols et recels concernent 160 000 jeunes et les violences volontaires 95 000. Le pic des infractions sur les stupéfiants atteint plutôt les jeunes de 18 ans. 105 000 jeunes passeront pour cette raison devant un tribunal en 2014. Sur la question, le médecin Moundir Maghmouni met en avant le lien entre l'augmentation de la délinquance juvénile et celle de la toxicomanie chez les jeunes.
Après, les infractions à la circulation routière concernent les jeunes de 22 ans en moyenne. Sont comptées parmi celles-ci les conduites sans permis, refus d'obtempérer, les conduites sous emprise d'alcool ou de stupéfiants, les défauts d'assurance et les délits de fuite. Environ 91 000 jeunes sont impliqués en tout dès 15 ans, alors que le phénomène ne diminue qu'à partir de 24 ans.
C'est énorme ! Mais comment la justice punit-elle toutes ces infractions ?
Devant ces chiffres, la réponse de la justice est plutôt stricte.
S'agissant des mineurs, le tribunal des jeunes peut proposer une mesure alternative aux poursuites, ce qui est le cas pour 6 jeunes sur 10, et permet d'éviter un procès en assurant à la fois la réparation du dommage causé à la victime et de contribuer à la réinsertion de l'auteur des faits. Après 18 ans, ces mesures éducatives disparaissent pour laisser place aux amendes et aux peines de prison avec ou sans sursis. Mais si le délit est trop important ou répété, la prison pour mineurs peut être une sanction. Une sanction pas commune, mais utilisée. Les peines d'emprisonnement ou de travail d'intérêt général sont de plus en plus prononcées à l'approche de la majorité.
La justice dit qu'un jeune serait plus facile à rééduquer qu'un criminel qui a été plusieurs fois condamné. Plus précisément, un criminel multirécidiviste.
Combien de jeunes sont alors condamnés ?
En fait, 8 jeunes sur 10 dont l'affaire est traitée par le tribunal sont condamnés.
C'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. C'est pour ça que des études sont menées pour faire diminuer les chiffres qui augmentent énormément et pour comprendre aussi pourquoi ces chiffres augmentent.
De plus en plus de jeunes tendent à la délinquance. Par exemple, 21% des hommes et 3% des femmes des générations nées vers 1985 ont été condamnés au moins une fois pour des faits commis entre 10 et 24 ans.
Mais dites-nous comment on peut réagir ?
Si vous voyez que quelqu'un tombe dans ce phénomène, il faut l'aider à s'en sortir et les soutenir, car les jeunes qui tombent dedans sont en général des personnes qui ont besoin d'aide, qui se sentent seules, qui ont en général des problèmes. L'aider à s'en sortir en le conseillant d'aller voir une spécialiste ou autre est la meilleure solution pour se sortir de la délinquance. Et surtout, il faut être présent pour lui.
Merci pour toutes ces informations et ces conseils. N'oubliez pas les amis, la délinquance c'est dangereux. Enchaînons avec Damien et Mathieu pour parler des Jeux Olympiques de 2024.
Bonjour à tous. Le lycée vient d'obtenir le label Génération 2024, remis par la rectrice de l'Académie de Toulouse. On a donc décidé de s'intéresser aux Jeux Olympiques et à ce label.
Pouvez-vous d'abord nous rappeler ce que sont les Jeux Olympiques ?
Les Jeux Olympiques sont des événements internationaux sportifs majeurs, regroupant les sports d'été et d'hiver, auxquels des milliers d'athlètes participent à travers différentes compétitions.
Ils se tiennent tous les 4 ans, les années paires, en alternant JO d'été et d'hiver.
Originellement tenus dans le centre religieux d'Olympie, dans la Grèce antique, les Jeux Olympiques ont été rénovés par le baron Pierre de Coubertin en 1894. Lorsqu'il fonda le Comité international olympique, le CIO, les premiers Jeux Olympiques modernes se sont déroulés en 1896.
L'actuel programme olympique se compose de 41 sports, 58 disciplines et près de 400 épreuves. Les JO d'été comprennent 34 sports et 44 disciplines, et ceux d'hiver, 8 sports et 15 disciplines.
Comment sont sélectionnées les villes d'accueil ?
Les villes candidates pour accueillir les Jeux Olympiques sont départagées par le Comité international olympique après avoir préparé un dossier. La sélection des villes candidates a lieu lors d'un congrès du CIO, en général 8 ans à l'avance.
Mais comment sont sélectionnés les athlètes ?
Les athlètes voulant participer aux futurs Jeux Olympiques doivent s'inscrire à plusieurs compétitions qualificatives se déroulant généralement un an avant les Jeux Olympiques.
Qu'est-ce que le label Génération 2024 ?
Le label Génération 2024 est un label qui a été décerné au lycée.
Il consiste à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
On vous propose d'écouter tout de suite M. Robin, professeur d'EPS au lycée, que nous avons interrogé à ce sujet.
Bonjour Pierre Robin, vous êtes professeur d'EPS au lycée La Bordevasse.
Alors pourquoi le lycée a-t-il été choisi pour ce label ?
On a eu un dossier de candidature qu'on pouvait déposer. On pouvait candidater pour avoir ce label en 2018, l'an dernier, et on remplissait déjà pas mal de conditions. Donc en fait, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir, au moins pour l'image et puis pour valoriser le côté sportif du lycée, d'avoir ce label à mettre en plus à côté du nom du lycée.
D'accord. Qu'est-ce que ce label implique-t-il pour le lycée ?
Alors ça implique en fait pour le lycée de mettre en valeur en fait les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans un premier temps. Ensuite ça implique pour cette mise en valeur d'en parler. Vous voyez un peu sur les écrans. On a fait la semaine de Olympique et Paralympique. Et puis derrière aussi ça implique qu'on sensibilise les élèves à la pratique du sport, pas forcément de haut niveau, mais au moins à la pratique du sport pour chacun quoi.
D'accord.
Et du coup, durant cette semaine, quelles ont été les activités mises en place par le lycée ?
Alors, on a profité de cette semaine pour mettre en place une démonstration d'escrime, parce qu'on a une équipe UNSS qui s'en va en Guadeloupe pour les championnats de France. On a mis en place également la possibilité de faire du handi-basket. C'était le jeudi, ça, dans le gymnase. On avait récupéré des fauteuils, puis ça nous permet de parler de sport inclusif aussi, d'intégrer pas simplement que le côté olympique, mais le côté paralympique. Donc c'est intéressant aussi que des valides se mettent à la place des personnes handicapées et voient ce que ça puisse donner. Et puis vendredi, on a fait du golf, on a fait une initiation golf dans la cour de récréation avec un practice gonflable. On avait prévu une diffusion d'un film aussi sur Jesse Owens, La couleur de la victoire, qui était prévu le mercredi, et on a dû le décaler 15 jours après, mais on l'a quand même passé pour les internes, pour certains qui sont venus voir le film. Voilà.
D'accord, merci.
Merci.
Nous espérons que cette chronique vous aura permis d'en apprendre plus sur les Jeux Olympiques
et que vous suivrez les Jeux Olympiques 2024 avec enthousiasme.
Nous vous remercions pour ces informations. Bonne continuation à vous.
poursuivons avec Johan et Noélie qui vont nous éclairer sur les potentiels dangers dans le sport.
Bonjour, je suis Johan.
Et moi, je suis Noélie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les dangers que nous pouvons retrouver dans le sport et en particulier chez les jeunes. Au cours de cette chronique, nous allons aborder plusieurs sports ainsi que les différences entre les blessures chez les adolescents et chez les adultes. Le sport est bénéfique pour la santé car il procure du bien-être, une meilleure hygiène de vie ou encore de la confiance en soi. Malgré tout, les jeunes comme les adultes sont confrontés à des blessures.
Quels sont les dangers auxquels les jeunes sont confrontés en pratiquant une activité sportive ?
Il existe plusieurs sortes de dangers suivant le sport pratiqué. Les sports de combat et de contact provoquent le plus souvent des blessures, comme par exemple le rugby. On peut trouver des claquages, des déchirures musculaires qui touchent le plus souvent les muscles des mollets et les muscles des cuisses. Quadriceps, ischio-jambiers. Les blessures se soignent en 6 semaines grâce à du glaçage et des soins chez le kiné. Les chevilles sont confrontées à des fractures, des foulures ou encore des entorses. Il peut y avoir une opération suivant la gravité de la blessure ou une immobilisation durant un certain temps. Les genoux peuvent être touchés notamment au niveau des ligaments croisés, intérieurs, latéraux, mais aussi les ménisques et la rotule. Il faut 9 mois d'arrêt avec une opération. Les commotions cérébrales, c'est le fait de prendre un coup au niveau de la tête. Cela peut entraîner des problèmes cérébraux, maux de tête, maladie de Parkinson, lésions cérébrales.
Peut-il y avoir d'autres dangers en dehors des sports de combat et de contact ?
Oui, on remarque que faire du sport intensivement durant la croissance peut créer des problèmes sur le squelette et au niveau des articulations, comme des arrachements osseux, des problèmes ligamentaires et des dégâts à la colonne vertébrale. Dans d'autres sports comme le cyclisme ou l'haltérophilie, on peut retrouver du dopage dans le but de faire des meilleures performances. Mais cela peut provoquer des accidents cardiaques et circulatoires, des insuffisances rénales, des cancers, de l'impuissance, de la stérilité ou encore des troubles pendant la grossesse, des troubles psychologiques et du comportement. Et pour finir, les sports extrêmes sont la première cause de mortalité chez les adolescents entre 15 et 24 ans.
Quelles sont les différences entre les dangers chez les jeunes et chez les adultes ?
Les adultes ne peuvent pas être confrontés à des risques de croissance dû à une pratique sportive trop intensive, vu qu'elle est déjà arrêtée. Mais cela n'a pas que des avantages en cas de fracture, car l'os aura plus de mal à se ressouder. Chez les jeunes, la pratique du sport ne doit pas dépasser une dizaine d'heures maximum. Dépasser un trop grand nombre d'heures peut provoquer une baisse de performance sportive, des troubles au niveau du sommeil, de l'appétit et de l'humeur, une fatigue générale ou encore une baisse des résultats scolaires. Les adultes connaissent mieux leurs limites, ils arrivent donc mieux à gérer leur temps d'entraînement.
Pour finir, nous allons vous citer quelques chiffres. Les sports les plus provocateurs d'accidents sont ceux dits sur roues sans moteur, dont 82% étaient le cyclisme, le reste étant le roller et la trottinette, les sports d'équipe, le football, le handball et le rugby, l'équitation ou encore les sports mécaniques comme le quad et la moto. Sur les 408 accidents étudiés, ces 4 sports représentent 73% des blessés. Les hommes représentaient 70% des accidentés, notamment entre 10 et 19 ans. Près de 91% pratiquaient leur sport de manière habituelle, au moins une fois par semaine. Pas loin de la moitié étaient licenciés, mais 2 sur 3 ont eu leur accident dans le cadre d'une pratique de loisir. Un an après leur blessure, 41% des personnes interrogées estimaient que leur état de santé n'était pas revenu à la normale, 45% estimaient que leur morale avait été affectée et 30% n'avaient pas repris le sport pratiqué lors de l'accident.
Si les moins de 20 ans représentent la moitié des accidentés, les actions de prévention sont mises en place. Pour les deux roues sans moteur, les experts rappellent l'importance du port du casque et des protections du membre supérieur. Pour les sports d'équipe, la prévention passe par des actions de type éducative au sens large dans les clubs. Pour l'équitation, l'étude recommande d'étudier la possibilité de protection du tronc. Et pour les sports mécaniques, l'éducation passe par le comportement et l'apprentissage des gestes techniques. Pour conclure, malgré tous ces dangers et des blessures, le sport reste un loisir agréable à pratiquer.
Un grand merci à vous, Johan et Noélie, pour nous avoir aiguillés à propos de ce sujet.
Pour cette dernière chronique, Cassandre et Amélie vont nous parler du cas des difficultés de scolarisation pour les enfants au Sénégal.
Bonjour à tous, Cassandre et moi sommes deux élèves du lycée Laborde de Basse. Nous nous sommes rendus compte que depuis notre plus jeune âge, nous avons la chance d'aller à l'école et d'étudier. C'est pourquoi nous tenions à vous parler des difficultés de scolarisation rencontrées pour les enfants au Sénégal. Afin de vous sensibiliser, nous vous présenterons dans un premier temps l'état des lieux des conditions de scolarité au Sénégal pour ensuite aborder les possibilités d'action de solidarité. Enfin, nous conclurons ce sujet par notre avis personnel.
Parlons tout d'abord du système éducatif dans ce pays. Là-bas, l'école est obligatoire pour les enfants dès l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans. Et depuis ces dernières années, le taux de scolarisation a augmenté de 30% d'après l'UNESCO.
Il faut cependant rappeler que l'accès à la scolarité est restreint. En effet, la plupart des enfants sont dans l'obligation de parcourir un très long trajet pour atteindre leur école. C'est ce que nous montre le documentaire sur le chemin de l'école qui nous fait découvrir le quotidien de ces enfants, parcourant plusieurs kilomètres, le plus souvent à pied pour pouvoir avoir la chance d'étudier.
Mais alors pourquoi moi j'ai accès au transport comme le bus pour me rendre au lycée ?
Tout simplement parce que le Sénégal a davantage de problèmes économiques. En effet, le gouvernement consacre seulement 24% des dépenses publiques pour les enjeux liés à l'éducation, ce qui représente peu. Ce qui influe sur l'achèvement scolaire des enfants dès la primaire. Seulement 6 enfants sur 10 réussissent à terminer la primaire. Les chiffres diminuent au collège puisque seulement moins de 5 élèves sur 10 entrent au collège et 3 y terminent leur scolarité.
S'ajoute à cela l'inconvénient du matériel scolaire, qui n'est pas fourni par l'école et que chaque élève doit donc acheter, à l'inverse de notre situation. Dû au manque de ressources financières, les établissements scolaires ne peuvent subvenir au confort des élèves, car dans la plupart des classes se trouvent plus de 50 élèves, ce qui amoindrit la qualité du travail.
Même si les frais d'inscription sont offerts, les services que propose la scolarité restent payants. Nous pouvons donc conclure que la situation économique et le système d'éducation du Sénégal diffèrent de celui de la France.
Mais comment pouvons-nous venir en aide à ces enfants ?
Nous avons tous la capacité de venir en aide à ces personnes. Il existe différentes associations humanitaires, notamment l'association Amitié Solidaire, qui se compose de bénévoles qui œuvrent par des actions diverses afin d'apporter une aide au Sénégal. D'ailleurs, le lycée de la Borde-Basse a participé il y a quelques années à ces actions en collectant du matériel scolaire, qui a ensuite été envoyé par conteneur à Mbourg, ville dans laquelle se trouve l'école des Cajoutiers que le lycée avait décidé de soutenir.
D'autres établissements scolaires de Castres et d'Aix-en-Provence ont aussi mené des actions identiques. De l'argent a aussi été collecté pour aider les enfants de cette école à financer leur scolarité et leur permettre aussi d'avoir des repas à la cantine plus complets.
Certes, il y a aussi des gens démunis en France, mais cela n'empêche pas non plus de nous montrer solidaires vis-à-vis d'autres pays. Et toi, quel est ton avis à ce sujet ?
Je m'estime chanceuse de pouvoir aller étudier afin d'accéder à une profession qui me plaît, même si malheureusement, nous ne nous rendons pas compte que ce n'est pas le cas partout dans le monde. Je pense que la solidarité et l'entraide sont une issue à beaucoup de problèmes dont celui-ci.
Tout à fait. Il est important de soutenir les actions humanitaires car c'est l'avenir de milliers d'enfants qui est mis en jeu. Je te rejoins donc sur le fait qu'être solidaire est un pilier majeur au sein de notre société. Vous qui nous écoutez, agissez, faites des dons, aidez ces enfants en vous rendant par exemple sur le site de l'association Amitié Solidaire. Ainsi, vous contribuerez au bonheur de nombreuses familles.
Merci à vous de votre attention. Nous avons apprécié de partager ce sujet nous tenant à cœur.
Merci bien à vous deux les filles de nous avoir éclairés à propos des inégalités sociales dans la scolarité. Nous allons désormais écouter les nouvelles critiques littéraires que les élèves de Madame Priva ont préparées spécialement pour nous ce matin. On accueille tout de suite Gwendoline et Nina.
Bonjour, nous sommes
Nina
et Gwendoline et nous allons vous parler de la nouvelle Sac au dos de Huysmans publiée en 1880. Nous commencerons par un résumé de cette nouvelle, puis nous poursuivrons avec les qualités et défauts de ce texte. Et nous poserons une question importante qui est à quoi l'auteur veut-il nous faire réfléchir ? Nous continuerons avec nos conseils de lecture et finirons avec l'avis partagé du groupe.
Sac au dos est une nouvelle de Huysmans qui se déroule au moment du conflit qui oppose le royaume de Prusse à la France en 1870. Cette nouvelle est composée de plusieurs parties. Dans un premier temps, une description détaillée d'Eugène, le personnage principal, nous est faite. On apprend qu'il vient de finir ses études de droit, qui lui déplaisaient, mais il n'aura pas le temps d'exercer son métier puisqu'il va être appelé au front.
Ensuite, son départ et son entrée dans l'armée sont évoqués. Leur voyage est mouvementé car ils subissent différents arrêts en fonction de l'avancée des Prussiens. De plus, Eugène tombe malade durant le voyage et il est donc transféré dans un hôpital.
Là-bas, il rencontre Francis et Mono, un camarade de chambre avec qui il devient ami. Ils connaîtront différents hôpitaux avant de s'arrêter dans un établissement où ils resteront jusqu'à leur sortie. S'ennuyant, ils décident de s'évader de l'hôpital et d'aller en ville pour se changer les idées. Eugène trouve, grâce à une connaissance, le moyen de sortir.
Cette nouvelle nous a paru courte et plutôt facile à lire, avec un rythme cadencé. Cependant, les actions se trouvent assez répétitives, ce qui peut être lassant. De plus, il y a beaucoup de vocabulaire et donc beaucoup de notes de bas de page, qui peuvent déranger certaines personnes. Nous allons maintenant tenter de répondre à notre question de départ. À quoi l'auteur veut-il nous faire réfléchir ?
On a dans cette nouvelle une description des coulisses de la guerre et des conditions de vie des soldats dans les hôpitaux, ce qui est peu commun et permet de voir la guerre sous un autre angle. Les malades souffrent de la promiscuité, de l'ennui, du manque d'intimité et d'hygiène. On se rend alors compte qu'il faut être privé des choses banales pour comprendre leur vraie valeur.
Nous conseillons cette nouvelle aux personnes qui aiment les récits brefs et qui pensent que la guerre est souvent idéalisée. À l'inverse, nous la déconseillons aux patriotes, aux âmes sensibles, ainsi qu'aux petits lecteurs, car cette nouvelle contient beaucoup de vocabulaire.
Nous partageons un avis plutôt négatif sur cette nouvelle de Huysmans. En effet, malgré une nouvelle rythmée et riche en rebondissements, celle-ci nous a paru ennuyeuse, ce qui est peut-être le but recherché par l'auteur, puisqu'il veut nous montrer l'ennui des soldats qui étaient dans cette situation.
Cependant, nous vous invitons à vous faire votre propre avis en la lisant.
Merci à vous les filles d'avoir partagé ces chroniques avec nous. On accueille désormais Morgane et Brice.
Nous allons vous parler d'après la bataille. Pendant la guerre de 1870, un jeune soldat du nom de Gabriel, blessé après une bataille, se retrouve mal en point au bord d'une route. Une jeune baronne du nom d'Edith passe alors près du jeune homme et après réflexion l'accueille dans sa charrette pour le soigner. Entre l'amour et la guerre, ils vont vivre une histoire inoubliable.
Gabriel Martier est un soldat prêtre, il ne connaît alors pas l'amour, mais il est attiré par les femmes. Durant sa jeunesse, Gabriel est amoureux d'une fille prénommée Maria. Cet amour est non réciproque. Edith de Plémoran est une veuve qui ramène chez elle le corps de son mari mort à la guerre pour l'enterrer. Elle lisait beaucoup de livres, ce qui la rend très naïve vis-à-vis de l'amour. Ses parents ont arrangé son mariage avec M. de Plémoran, un baron. Elle n'aimait pas son mari qui était violent avec elle.
Ce qui peut choquer les lecteurs à l'époque est le fait que le prêtre et la veuve ont une relation entre eux dans la charrette, à côté du mari défunt. En effet, le lecteur de l'époque se demande pourquoi l'auteur a voulu mettre en évidence cette trahison que l'on est tous susceptibles de commettre et pourquoi il n'a pas choisi des personnages plus héroïques. On est vraiment dans le réalisme. On veut montrer les hommes avec leurs qualités et leurs défauts. L'acteur veut faire réfléchir sur le fait qu'un prêtre peut avoir des sentiments amoureux sans culpabiliser. Il veut nous montrer que deux personnes de milieux différents peuvent s'aimer. Malgré la violence de la guerre, il y a encore de l'amour. L'auteur nous montre un peu d'espoir, de lumière au milieu de la nuit de l'amour. C'est une réflexion sur la liberté. Sommes-nous libres de nos choix, libres d'aimer ? C'est une nouvelle originale. Elle sort du contexte violent de la guerre. Elle nous raconte les coulisses du conflit. C'est une intrigue que l'on ne trouve pas dans les livres d'histoire. C'est une nouvelle qui est sentimentale et qui développe des portraits de personnages touchants complexes.
C'est une nouvelle qui est courte, mais on a le temps de s'attacher aux personnages. Elle est simple à lire car le vocabulaire est facile dans l'ensemble. L'histoire est touchante car elle nous montre que malgré nos différences sociales et culturelles, on peut s'aimer, se comprendre. Les personnages ne sont pas des héros inaccessibles, mais des gens normaux qui nous ressemblent. Edith sort d'une enfance difficile, elle est courageuse, forte, mais malgré tout, sensible et généreuse. Gabriel nous touche, car il est un peu timide, il manque d'expérience, et il se trouve confronté à une guerre qui le dépasse. Nous déconseillons cette nouvelle aux personnes qui ne sont pas sensibles aux histoires d'amour, car il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup de dialogue au cours de cette histoire, elle reste avant tout descriptive. Nous la conseillons aux lecteurs qui cherchent à avoir des émotions à travers une histoire avec des personnages attachants. C'est une nouvelle originale qui sort du commun. Voilà.
Merci à Brice et Morgane de nous avoir présenté leur chronique.
Maintenant, c'est au tour de Julie et Émilie de nous présenter leur chronique.
Bonjour, nous allons vous présenter une nouvelle intitulée « L'affaire du Grand Sept » de Léon Hennig, publiée en 1880.
L'histoire se déroule durant la guerre franco-prussienne de 1870 dans une ville de garnison. Les deux lieux principaux sont la caserne où vivent les personnages de l'histoire, ainsi que le Grand Sept qui est un cabaret. Un soir, un homme nommé Joliot se rend au cabaret et s'y fait tabasser à mort. Cependant, il parvient à rentrer à la caserne et à prononcer quelques mots racontant les faits avant de rendre son dernier souffle sous les yeux remplis de rage de ses camarades. Ensuite, sous cette pulsion de rage, tous ses compagnons se réunissent et décident de partir le venger.
Dans cette nouvelle, les deux thèmes principaux sont l'esprit de camaraderie ainsi que la vengeance qui entraîne un début de violence et qui va aller jusqu'au massacre de civils. Nous retrouvons aussi quelques passages évoquant la guerre franco-prussienne.
En lisant cette nouvelle, vous pourrez remarquer une certaine similitude entre les personnages qui y sont décrits. Ce sont tous des soldats et ils ont donc les mêmes traits physiques comme la moustache. En raison de ce manque de description, nous ne pouvons pas nous identifier à eux.
À travers cette nouvelle, Léon Hennig veut nous faire comprendre qu'il ne faut pas se venger instantanément, mais prendre le temps de réfléchir. car les conséquences peuvent être plus graves que l'acte en lui-même. Il faut donc suivre le dicton qui dit « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Cependant, mieux vaut ne jamais se venger, car la violence entraîne la violence et ne résout aucun problème.
À l'époque, ce qui pouvait heurter, voire choquer les lecteurs, était le fait que les soldats soient représentés comme des brutes remplis de violence, sans amicalité, ce qui les dévalorisait et ne leur donnait pas un air héroïque comme nous l'attendions d'eux.
Nous avons choisi cette nouvelle parce qu'elle est assez courte, mais aussi ce qui nous a plu et intéressé est le fait qu'il y ait pas mal d'action, ce n'est pas une histoire monotone.
D'après nous, cette nouvelle est facile à lire par sa simplicité de lexique. Nous trouvons qu'elle est agréable par le fait qu'il y ait de l'action tout au long de la nouvelle, et non pas que de la description, ce qui peut être ennuyeux. Cependant, le peu de description est une difficulté pour nous apparenter au personnage.
Cette nouvelle est une œuvre qui est faite pour nous faire réfléchir. Elle s'adresse à un public qui aime les actions et les bagarres, et non à un public qui aime les caractéristiques de l'armée, car elle y est dévalorisée, en montrant les soldats comme des brutes et des meurtriers. De plus, le vocabulaire est accessible à tous par sa simplicité.
Merci Julie et Émilie de nous avoir présenté ces chroniques. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette nouvelle émission sur la LBB Radio. On espère que ces chroniques vous auront plu. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et bonne chance pour tous ceux qui passent leur bac. C'était Clément et Louis sur la LBB Radio. Thank you.